Cette émission est rendue possible grâce à mes patrons. Pour devenir un patron, allez sur patreon.com/stupid et suivez les instructions.
Nous vivons à l'ère de la mondialisation. Les problèmes auxquels nous faisons face sont diversifiés et complexes. L'environnement, les enjeux de sécurité, la santé, l'économie. La nation québécoise en est une de fierté, de passion et de culture. Mais certains défis dépassent nos frontières et notre pouvoir décisionnel est souvent limité. Pour un Québec qui désire grandir et faire une différence dans le monde, une réelle solution existe. Devenir un État souverain, membre de l'Union des États-Unis d'Amérique. À la face même de leur nom, on peut constater que les États-Unis sont un pays inclusif. Ils n'ont pas de langue officielle, leur drapeau est évolutif et la loi prévoit même un accès aux services pour les personnes ne parlant pas l'anglais. Et pour le Québec, les avantages sont nombreux et indéniables. Un dollar plus fort, un marché large et diversifié, un véritable rôle à jouer dans les décisions internationales. La liste est longue. Et tout cela dans le respect de notre drapeau, de nos valeurs et de notre langue. Le Québec pourrait d'ailleurs légiférer selon ses convictions, prévoir son propre droit criminel, mettre en place sa milice et rédiger sa propre constitution. Nous serions finalement maîtres chez nous. Alors pour ceux qui croient que l'union fait la force, le véritable choix, c'est le Parti 51. Visitez le www.parti51.com pour en apprendre davantage.
Donc, les libertaires dans la société dont Stupid fait partie organisent des célébrations et des rituels célébrant la liberté. J'estime que ce colloque a été un rituel satanique. Ils viennent voir les gens individuellement. Vous allez vous agenouiller devant la Révolution française. Sinon, il va vous arriver des choses. Allez célébrer le féminisme et le microsionisme. Sinon, il va vous arriver des choses. On va vous punir. Je me lève ce matin. Puis, j'ai l'impression d'être...
Mesdames et messieurs, il est ici, en chair et en gras. Bienvenue à Dedans le Mille avec votre hôte Stupid.
Salut tout le monde, ici Stupid et bienvenue à Dedans le Pit. Et ce soir, une question importante, mesdames et messieurs, qu'on ne se pose jamais. Est-ce que le Québec devrait devenir le 51e État américain? Et pour en discuter, je reçois un invité de marque, mesdames et messieurs. Il est avocat. Il a défendu la liberté d'association des étudiants et des agriculteurs. Il a aussi permis à 47 familles des victimes de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic d'obtenir justice avec une compensation sans précédent, surtout aux États-Unis. Mesdames et messieurs, je vous présente le chef du Parti 51, Maître Hans. Merci, Hans. Comment ça va?
Ça va bien, ça va très très bien, que j'espère que c'est la même chose pour les auditeurs. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir.
Oui, en fait, tu vois, juste le fait que j'ai posé la question hier sur Facebook et j'ai eu une affaire comme 55 partages, juste pour poser cette question-là, ça a créé énormément d'intérêt parce qu'au Québec, on parle surtout, est-ce que le Québec devrait rester dans le Canada? Est-ce que le Québec devrait se séparer? Et des fois, dans une discussion de taverne, des gens vont dire « Hey, ça serait le fun si on était un État américain. » Mais votre parti existe depuis longtemps, quand même. Et c'est votre objectif de faire du Québec le 51e État américain. Et d'après ce que vous dites, le Québec serait beaucoup mieux servi par les Américains que par les Canadiens.
Absolument. Ça fait pas l'ombre d'un doute pour nous. Parce qu'il faut comprendre que cette chose-là, je la travaille depuis longtemps. Ça fait longtemps que je m'intéresse à la politique. J'ai été impliqué à l'époque dans d'autres partis, dont la défunte ADQ, entre autres. Et j'ai toujours voulu... Moi, je suis le genre de personne, il y a toujours une meilleure solution. C'est juste qu'on n'y a pas encore pensé. Et je me suis dit, ça prend quelque chose. Le Québec, actuellement, est dans un marasme et dans un moment qui n'est pas intéressant pour les Québécois. On a l'impression que ça va mal. On a l'impression qu'on ne peut pas rien faire. On a de la corruption partout. On a l'impression qu'on perd le contrôle de nos institutions. Et on a l'impression qu'on ne peut pas rien faire pour déloger certains partis au pouvoir à cause, justement, d'une problématique qu'on a, de ce clivage-là entre deux options qui sont pas fonctionnels. Il y en a ni une ni l'autre qui va donner satisfaction à l'ensemble des Québécois. Donc, moi, j'ai eu un moment de réflexion. Ça fait plusieurs années que je songe à ça et je me dis, ce serait quoi la solution qui pourrait vraiment répondre aux aspirations de tous les Québécois? Les fédéralistes, souvent, c'est vous allez, à part quelques franges très, très limitées de personnes là, qui ont la couronne britannique tatouée sur le cœur, de façon générale, c'est surtout la sécurité d'une fédération qui les intéresse. C'est pas tant le Canada en particulier. C'est le fait de dire, écoutez, un Québec indépendant, économiquement, ça irait mal, ça serait l'enfer, on se détruirait, on ne survivrait pas pour certains. Ça serait dramatique.
Mais c'est faux de dire ça, par exemple.
Ah, tout à fait. Puis c'est pas notre position. Pas du tout. Puis d'ailleurs, ironiquement, là, un des critères non écrits qu'on a souvent pour le devenir un État américain, c'est d'être autonome économiquement, d'être un État qui est capable de s'autosuffire. Et j'ai aucun doute que le Québec peut le faire. Mais pour certaines personnes, c'est un pari risqué. Et la raison pourquoi, outre le fait, premièrement, on le voit dans le pourcentage, ça va pas en augmentant, là, le pourcentage d'appui à l'indépendance et à la souveraineté pure et dure. Là. Premièrement, comme je le disais lors de la dernière conférence, faut pas oublier une chose. Là. Même à son paroxysme, là, l'appui à la souveraineté, c'était pas de l'indépendance pure et dure qui était proposée. Parce que même la question de 95, c'était dans le cadre d'un partenariat politico-économique avec le reste du Canada. Essentiellement, c'était on ressassait en mots plus élégants le projet de souveraineté association de René Lévesque qui était de dire ce qu'on veut, c'est d'être maître chez nous, mais pas forcément d'avoir une armée québécoise, d'avoir un dollar québécois avec la face de René Lévesque dessus. Pas certain. Et faut comprendre que on sera un peu à contre-courant aussi. Parce que le problème, c'est qu'en s'isolant, on s'affaiblit de nos jours. On voit énormément dans toutes les sociétés occidentales, on voit de plus en plus de corruption. On se rend compte à quel point nos sociétés libres et démocratiques sont plus fragiles qu'on pense lorsqu'on voit l'émergence de certains pays comme la Chine ou la Russie qui reprend du poids de la bête. On peut avoir des raisons de s'inquiéter de ça, tout à fait légitimes. Et même de l'intérieur, tous les groupes d'intérêt, les corporations sont maintenant rendus des multinationales. Les syndicats commencent à devenir plus grands que les nations, commencent à s'unir entre eux. Les organisations criminelles ne s'arrêtent pas aux frontières. Les seules personnes qui s'arrêtent aux frontières, c'est les gouvernements. Puis les gouvernements, dans des sociétés démocratiques, c'est nous, les citoyens. Fait que si on limite, on se rapetisse, on s'isole, dans les faits, on s'affaiblit terriblement et on se rend juste plus vulnérable à ces groupes d'intérêts-là qui ont pas l'intérêt du citoyen à cœur.
Donc, j'ai une question pour toi.
Oui.
Il y a Jean-Jacques Nantel qui dit que le Canada est un pays artificiel, il peut pas fonctionner. Mais si le Québec était un État américain, ça serait quoi la grosse différence? Parce que tu avais dit dans la conférence en fin de semaine que le Québec, en fait, que les États-Unis, c'est comme 50 pays qui exact. Se sont mis ensemble.
Exact.
Quels seraient les gros avantages, mettons, demain matin, on devient le 51e État américain. Dans la vie de tous les jours, ça change quoi pour le Québec? Nos institutions, est-ce qu'il y a des choses à risque? Non? Explique-moi un peu, là, qu'est-ce qui se passe si on devient américain demain matin?
Exact. Bon, contrairement à croyance populaire, il y a plein de choses, puis ça, j'irai en détail tout à l'heure, on pourra les faire un à un.
Mais je vais te poser les freaking ask questions exact. De ton site tantôt, puis tu y répondras.
Exactement, puis je pourrais donner les réponses. Mais essentiellement, là, honnêtement, on gagne partout. Parce qu'on est plus libre, parce qu'on a plus le contrôle de nos institutions, ce qu'on n'a pas au Canada. Au Canada, il faut comprendre une chose, là, la Constitution, puis là, je veux pas tomber technique, puis endormir, puis perdre tous les auditeurs, là, on fait ça simplement. Il y a des affaires qui se décident au Québec, il y a des affaires qui se décident à Ottawa. Quand tu es un État américain, comme je disais, les États-Unis, premièrement, le nom, les États-Unis, C'est pas un nom de pays comme Danemark, Canada, France, Allemagne, c'est les États-Unis. C'est un nom générique. Puis c'est pour ça qu'ils n'ont pas changé de nom, parce qu'au début, il y avait rien que 13 États, maintenant, il y en a 50. Il aurait fallu qu'ils changent de nom à chaque fois qu'ils rentrent un nouvel État, que ce soit au goût de tout le monde. Non. Même chose pour le drapeau. Tu as les 13 bandes qui représentent les 13 colonies, puis à chaque fois qu'ils rajoutent un État, ils rajoutent une étoile sur le drapeau. Le drapeau a changé beaucoup avec les années, mais c'est toujours le même. Donc, il est vraiment. Les États-Unis sont vraiment faits pour inclure la diversité et inclure des nouveaux États, des nouveaux pays. Et tous les États sont des pays souverains. Vous savez, un des exemples que je prends le plus souvent, là, c'est la fameuse citation qu'on entend souvent dans les films lorsqu'on écoute, puis on dit ce que je viens de faire est illégal dans 47 États et donc illégal dans 3 autres. Mais ça, là, ça explique très bien la chose. C'est justement parce que chaque État a ses lois, chaque État a ses systèmes de droits différents et tout ça, par cette merveille qu'est la Constitution américaine, est faite pour quand même marcher ensemble et respecter la diversité de chacun.
Et il arrive quoi, mettons, avec les banques à charte? Mon compte de banque, est-ce que mon... mettons, j'ai 1 000 $ dans mon compte de banque, puis on devient demain un État américain. Oups, je suis rendu à 700 US.
Bon.
Est-ce que ma banque, il y a une charte québécoise, ça change rien pour ça? La Caisse de dépôt et de placement, la SAAQ...
Premièrement, par les Caisses des Jardins, il n'y a pas de banque à charte québécoise. Les banques, justement, au Canada, c'est fédéral. Ça dépend d'Ottawa. C'est toutes des banques à charte canadienne. La raison pourquoi Desjardins ne l'est pas, c'est parce que même si de plus en plus elle ressemble à une banque, théoriquement, est une coopérative. C'est la seule raison. Maintenant, il faut comprendre une chose. Ça, c'est... Vous savez, dans les faits, moi, je dis souvent au monde, tu vas prendre ton café demain matin, à part qu'il va te coûter beaucoup moins cher, puis tu vas le payer en US. Dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, dans les faits, on ne verra pas vraiment la différence, à part qu'on risque d'être beaucoup plus prospère. Parce qu'il faut comprendre que le fait de changer le poste de douane, d'abord, là, les banques, là, Ils ont déjà des clients à l'extérieur. Les banques sont déjà multinationales dans les faits, là, sont déjà bien souvent possédées par des intérêts étrangers ou fonctionnent. Il y a des systèmes de droits différents. Mais si demain matin, tu changes ton système de droit bancaire et ta banque à charte canadienne est rendue une succursale étrangère ou carrément devient une banque américaine, tu perds pas ton compte de banque. Là, l'argent disparaît pas du jour au lendemain. Là. Puis d'ailleurs, je disais même au niveau des placements, bien souvent, les placements qu'on détient dans des fonds mutuels déjà sont, vous excuserez l'anglicisme, mais tradés en US. Ils vous le convertissent en canadien, mais dans les faits, ils jouent sur les marchés. Puis le dollar, là, ce qui était l'étalon or avant, maintenant, c'est le dollar américain qui est le standard. Et ça, c'est l'autre beauté de la chose, parce que demain matin, vous avez le dollar américain. Bien, votre dollar américain, là, il ne variera jamais. C'est les autres qui varient en fonction du dollar.
Exactement. C'est lui qui est le baromètre de toutes les autres monnaies. On compare toujours en argent US. C'est la devise que tout le monde veut sa planète.
Fait que demain matin, là, vous ne vous demanderez plus si vous devriez aller cette année ou pas à Old Orchard parce que ça va vous coûter trop cher parce que le taux de change n'est pas bon. Il n'y en aura plus. Là.
Mais d'ailleurs, si on regarde, mettons, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est, quand le mur est tombé, se sont beaucoup enrichis.
Tout à fait. Tout à fait. Ça a été extrêmement bénéfique. C'est un des exemples que je donne à ma foire aux questions quand les gens disent « Ah, ouais, tu sais, là, il y a deux genres de personnes dans la vie. Il y a les genres de personnes qui disent « Comment on va faire pour réussir? » Puis il y a les genres de personnes qui disent « Pourquoi ça ne marchera pas? » Moi, je fais partie des gens qui disent « Comment on va faire pour réussir? » Parce que c'est pas vrai, on se limite tellement nous autres-mêmes, on se convainc tellement, surtout au Québec, là, qu'on est né pour un petit pain, puis on l'a déjà eu cet esprit de bâtisseur-là, les Québécois, on a rayonné partout dans le monde, puis ça, c'est ça qui me fait sourire aussi. Je dis, tu t'en vas justement au Canada, t'es pas très respecté comme Québécois, mais tu t'en vas aux États-Unis, là, eux autres, dans leur tête, t'es le Cirque du Soleil, t'es Céline Dion, t'es bien... Le Québec est bien vu aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et... j'ai perdu le fil, on est...
Oui, mais je vais te relancer sur d'autres choses à ce moment-là.
Vas-y.
D'après toi, est-ce que tu penses que les Québécois ont des valeurs plus près des valeurs américaines ou plus près des valeurs canadiennes? Puis on s'entend là, que les États-Unis, c'est un gros melting pot, mais si on prend par exemple le Maine, l'État de New York, tu sais, des États qui sont près de nous, est-ce que tu penses qu'on a plus en commun au niveau des valeurs avec les Américains qu'avec les Canadiens comme, mettons, l'Ontario ou les Maritimes?
encore là, c'est une drôle de question parce que les valeurs américaines, c'est très, très large. Parce que tu prends les valeurs d'un Texan puis les valeurs d'un gars de l'État de New York, déjà entre eux, ça va être très, très, très différent.
Mais quand même, la famille, c'est quelque chose d'important. Les traditions, c'est quelque chose d'important. Ils sont très fiers de leur drapeau. Si tu vas dans n'importe quel État américain, promène-toi dans un village, il y a des drapeaux américains partout.
Ça, c'est clair.
Ils sont très, c'est un peuple qui est fier, c'est un peuple qui est axé sur la famille. Les politiques sont axés sur la famille. D'ailleurs, c'est ce qui écœure la droite américaine. Eux qui veulent sabrer là-dedans. Mais tu vois, États-Unis d'Amérique, c'est quand même...
André, pour te donner
vas-y.
Le meilleur exemple. Okay. Trois quarts de la télé qu'on écoute, de la musique qu'on écoute, des séries télé qu'on écoute, les films qu'on écoute, les livres qu'on lit sont américains.
Mais pas au Québec. Ce qui est étrange, dans le top 10 des émissions les plus écoutées au Québec,
C'est
tu vas avoir 10 émissions québécoises, mais aux États-Unis, dans le reste du Canada, dans le top 10, c'est juste des émissions américaines.
Ouais, mais attends un peu. Les émissions québécoises qu'on te parle, bien souvent, sont des copies québécoise d'émissions américaines.
Oui, effectivement, La Voix, puis toutes ces choses-là. Effectivement, oui, oui.
C'est toutes les affaires aux États-Unis qu'on a traduit. C'est le monde s'en rend pas compte, mais on est c'est presque aussi pire aujourd'hui, puis je dirais même, je me demande si c'est pas pire qu'à l'époque.
C'est des shows qu'on a pris aux États-Unis, puis qu'on a scrappé.
À un moment donné, là, t'écoutes Suicide Squad, puis là, au début, t'as la chanson, puis là, ta blonde fait « Hein! » C'est les blues du pénitencier. Mais comment ça qu'ils ont traduit cette chanson-là? Ben non, ils n'ont pas traduit Chéran en anglais. C'est nous autres qui l'ont traduit en québécois. Puis c'est pas une toune originale québécoise pendant tout, même si tout le monde la connaît. Puis tout le monde.
Mais en fait, au Québec, je pense que c'est arrivé avec les Charlebois de ce monde des compositions originales. Mm-hmm. Parce qu'avant ça, c'était quasiment juste des traductions.
Pour te dire, je te donne l'exemple à un moment donné encore là, parce que je donnais toujours, puis on pourrait y revenir aussi là, de comment on va sauver notre culture dans cet océan anglophone alors qu'on y est déjà. À un moment donné, t'as à peu près le même âge que moi, tu me permets que je te tutoie.
Oui, absolument.
T'as à peu près le même âge que moi, tu te souviens sans doute qu'à une certaine époque, il y avait un gouvernement péquiste qui avait décidé de dire aux radios, vous allez avoir un quota minimum de musique francophone.
Oui, qui jouait à 2h du matin.
Qui jouait à 2h du matin parce que personne ne voulait l'écouter. Ça l'a lancé certains groupes, mais tu sais, essentiellement, tu mets une toune de Metallica, c'est dur de l'accoter avec une toune de gros francophones, veux pas. Là. Je veux dire, je veux pas rentrer dans les goûts musicaux puis je veux pas minimiser notre industrie.
Mais c'était pire dans les années 80. Parce que dans les années 80, tu avais justement Madonna contre Claude Dubois.
Exact.
Tu sais, t'avais, je sais pas, moi, un band comme The Commodores ou whatever band qu'il y avait, puis ta réplique, c'était Belgazou.
Exact. Fait que c'est... Et d'un autre côté, comme je te dis, t'as des affaires comme Céline Dion qui joue à Vegas, puis qui a fait...
Mais ça a changé parce que avec la révolution numérique, maintenant, c'est plus facile de faire des albums, puis d'avoir des albums de qualité.
Exact.
Mais avant, on n'avait pas les moyens d'avoir des bons albums, puis les artistes qui pognaient... Je sais pas, là, tu sais, c'est Sylvain Lelièvre, tu sais, c'était pas chanté à barouette,
exact.
Là.
Mais, et ça me ramène à l'autre option, parce qu'il y en a qui me disent, écoute, Parti 51, il y en a déjà eu un, ça avait pas levé tant que ça. Mais écoute, le contexte est un super différent, puis oublie pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, ta jeunesse, là, tu sais, que tu sois pro anti-mondialisation, là, tu peux pas te cacher d'Internet, là. Tes enfants, là, ils ont le monde au bout des doigts. Là. Moi, ma fille, là, elle s'est faite des amis un peu partout dans le monde avec ses jeux en ligne. Puis moi-même, c'est la même chose. Là. À un moment donné, je fais toujours sourire quand que je m'adonne à gamer et que je suis avec un gars de Nouvelle-Zélande puis il me dit à minuit, je vais aller dîner. T'sais. On ne réalise pas à quel point le monde est devenu petit. Et on est face à une nouvelle réalité qui donne une dynamique différente. Comment qu'on voudra s'isoler puis dire on va avoir notre banque québécoise, puis on va avoir notre système de protection, on va acheter québécois de nos fermes et tout ça. C'est important de protéger ces choses-là, mais il faut le faire de la bonne façon. Là. Tu sais, genre, à un moment donné, c'est pas réaliste de nos jours de s'isoler du monde, puis si on le fait, on se nuit et on tue notre culture. Notre culture, faut pas la faire en vase clos, faut la faire radier. Demain matin, qu'est-ce qu'un artiste québécois veut essentiellement quand il a commencé à pogner au Québec? C'est percer le marché américain.
Oui, parce qu'il ne vivra pas longtemps ici.
Ben non, puis c'est normal, c'est une question démographique, c'est une question de nombre. Ça ne veut pas dire, comment, à l'époque, regardez, là, Céline, quand elle s'était mise à chanter en anglais, là, pour certains, là, c'était une traître à la nation.
Oui.
Et dans les faits, elle a continué à faire des chansons françaises, puis elle a amené ça aussi aux Américains, ce qu'ils ne connaissaient pas. Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde la connaisse comme étant une porte-étendard du Québec. Tu sais, je veux dire, grâce à des gens comme elle, on sait que le Québec existe, là.
Mais faut dire qu'elle, elle a commencé à chanter en anglais pendant, dans le coin du référendum de 95, où là,
exact.
Les gens étaient très, très sensibles, comme par exemple un Québécois, à ce moment-là, pouvait pas devenir gouverneur général du Canada. C'est un suicide. C'est arrivé à Jean-Louis Roux que les Québécois francophones se sont ligués contre lui. Puis on cherchait toutes sortes de bébites. Finalement, il a pas eu le choix de démissionner. Parce qu'à un moment donné, ils ont trouvé une photo de lui à 17 ans avec une petite croix gammée qu'il avait faite pour niaiser sur son sarrau dans son cours de chimie, genre. Et là, il était obligé de démissionner. Imagine-toi, il avait genre 75 ans. T'sais.
Ah, c'est...
Ils ont trouvé une photo, il devait même plus s'en rappeler de cette affaire-là. Alors, tu sais, Céline Dion, elle a commencé à chanter en anglais dans ce coin-là. Fait que oui, il y a peut-être des gens qui ont été offusqués parce qu'ils voyaient ça comme une trahison. Mais maintenant, comme tu dis, je pense que l'identité québécoise présentement est en péril, surtout à cause du multiculturalisme canadien. Puis moi, honnêtement, bon, on a jasé en fin de semaine, puis t'es arrivé avec des arguments. Puis là, je me dis, moi, là, en tant que Québécois, qu'est-ce qui est le plus proche de moi? Qu'est-ce qui est le plus atteignable? Parce que je veux améliorer mon sort, je veux protéger ma culture, je veux sécuriser mes frontières, je veux que mon pays drive économiquement. Je pourrais le faire en devenant souverain, mais ça n'arrivera pas. Mais il y a une option, que, par exemple, que les fédéralistes puis les souverainistes peuvent avoir en commun,
exact.
Et c'est devenir le 51e État américain. Et là, je vais montrer aux gens deux exemples de PIB, si tu permets.
Oui, non, puis je suis content que tu aies sorti ça, parce que j'en ai beaucoup aussi qui nous ont sorti l'argument de la dette américaine.
Ah oh, non, 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 ça n'a rien à voir. La dette, oui, elle est élevée parce qu'ils sont beaucoup.
C'est la dette par PIB qui est importante.
C'est ça, exactement. On s'en fout de la grosseur.
Je dis à mon voisin, c'est quoi ma dette à moi? Elle va être, tu sais, pour lui, il va péter du cœur, là. Mais si moi, j'ai les revenus qui font que je suis capable de la payer, c'est pas un problème.
Tu sais, c'est pas la Grèce, là, quand même. C'est fou.
Exact. C'est que si t'as une dette, mais que ton PIB n'est pas là, que t'es pas capable de payer ta dette, c'est là que tu vas tomber en faillite, là, puis que tu vas avoir des problèmes. Mais si t'as une dette monstrueuse, mais quand t'as des revenus monstrueux, que demain matin, tu décides que tu la payes, ta dette...
T'as plus d'opportunités.
Ben oui, faut pas se leurrer. Là. La dette est un peu...
Mais je vais quand même montrer le PIB, OK?
Oui.
Voici le PIB des États-Unis versus le Canada. Donc, tu sais, on avait dit en 2008, c'était la catastrophe économique aux États-Unis, c'était effrayant.
Les rues avec les maisons à vendre.
Pis... Oui, mais ça, c'est arrivé, c'est vrai. Mais si on regarde le PIB, c'est à peine s'il a baissé. Et le PIB, là ici j'ai les chiffres depuis 1960, ça n'a jamais arrêté d'augmenter, à part le petit écope en 2008. Et le Canada, on a dit « Oh, on s'en est bien sorti, etc. » On a droppé pas mal plus. Mais si on regarde ici au Canada, depuis 2011, le PIB s'est stabilisé pendant 2 ans, puis là il descend, puis il descend vite, le PIB par habitant.
Mm-hmm.
Et là on va se comparer...
Parce que la population vieillit, ce qui est un autre gros problème dont on pourra discuter. Qui...
Mais la population vieillit aussi aux États-Unis.
Oui.
Mais si on regarde maintenant, le PIB, là on compare Canada-US, mais j'ai mis les pays les plus importants d'Europe. À partir de 2006, dans tous les pays d'Europe, c'est la débandade au niveau du PIB. Et surtout depuis 2-3 ans. C'est comme si l'Union européenne, au lieu de les aider, ça leur a nui. Et vous regardez les États-Unis, là, ils sont au top présentement du PIB par habitant par une grosse marge. Et si tu recules juste, mettons, en 1990, les États-Unis étaient dans le même peloton que les autres. Et là, maintenant, c'est une économie qui est très florissante, qui n'a pas ralenti à peine un peu en 2008. Donc, ça veut dire qu'ils sont beaucoup mieux équipés pour passer à travers une crise économique que n'importe quel autre pays.
C'est normal, ils sont dans les plus diversifiés au monde, puis ils sont dans les plus nombreux. C'est la force de l'Union, leur diversité, autant culturelle, autant. Puis c'est pour ça qu'on dit, tu sais, à un moment donné, on a l'impression que c'est deux mondes, les États-Unis, et puis qu'il y a un clivage entre les deux. Justement parce que la diversité, c'est leur raison d'être. C'est tous des gens qui ont fui des tyrannies ailleurs pour aller se faire un avenir meilleur, le fameux American Dream. Mais tu parles à n'importe quelle personne là, qui joue dans les monnaies ou qui joue dans les marchés, là, du moment que ça va mal dans le monde, du moment qu'on parle d'une guerre, on parle de Brexit, peu importe, la valeur refuge, c'est le dollar US. Tout le monde se rue pour acheter du dollar US. Il y a une raison à ça, là.
Oui, c'est parce que c'est justement, quand est-ce que cette monnaie-là a eu une débandade?
Jamais.
Très peu. Jamais. Même pendant la crise, à un moment donné, quand le dollar canadien était au pair, on peut pas, on pas ça n'a pas duré longtemps.
Longtemps hein? Sur 25 ans, ça est arrivé deux fois, puis c'est arrivé pendant une période très courte, dans des circonstances très particulières.
Oui. Donc, au niveau économique, présentement, le Québec... Parce qu'on est dans la Confédération canadienne, puis Jean-Jacques Nantel pourrait le dire, c'est la Confédération canadienne, c'est carrément un siphon qui prend l'argent du Québec puis qui l'envoie en Ontario, à Toronto ou dans l'Ouest canadien. C'est un siphon. On a, par exemple, l'accès à la mer à travers le fleuve Saint-Laurent. On n'a pas une scène pour ça. Les pipelines vont passer chez nous. On n'a pas une scène pour ça. On se fait siphonner littéralement notre argent.
Et ça, ça amène à un point intéressant, André, que les gens ignorent beaucoup. Un État américain, les ressources naturelles appartiennent à l'État. Aux États-Unis, là, tout ce qui appartient pas, tout ce qui n'est pas au fédéral, puis il n'y a pas beaucoup de choses au fédéral à part l'armée, les postes, puis tout ce qui est la monnaie. En fait, là, tout le reste appartient aux États. Et puis, au Canada, quand il y a quelque chose qui n'est pas prévu dans la Constitution, ça va au fédéral. Puis si demain matin, le Québec fait une loi puis est incompatible avec une loi fédérale, c'est la loi fédérale qui a le dessus. Aux États-Unis, quand c'est pas prévu dans la Constitution, ça revient à l'État. Donc, c'est pas un fédéral qui est là pour écraser. Là. C'est vraiment une union. C'est des pays qui ont dit on va se mettre ensemble pour avoir une défense commune.
Puis là, présentement, tu vois, il y a des lois anti-liberté d'expression. La motion M103 imposée au Québec. La loi C16 ontarienne, qui maintenant est devenue une loi canadienne. Il y a le Bill 89 en Ontario qui fait en sorte que leur DPJ à eux peut t'enlever tes enfants si t'es pas d'accord avec l'expression du genre de ton enfant. Donc, ça veut dire que si ton enfant de 8 ans, ton petit gars de 8 ans, pense que c'est une petite fille puis tu l'emmènes pas te faire une thérapie d'hormones, à ce moment-là, c'est considéré comme l'abus de ton enfant puis ils peuvent t'enlever tes enfants. Un État ne peut pas se faire imposer une loi aux États-Unis.
Non, par... ça... La Constitution américaine, c'est la pierre angulaire, c'est la liberté d'expression, puis c'est la liberté des individus. C'est ça qui est le cœur.
C'est imbriqué dans la Constitution, ce qui n'est pas le cas au Canada.
Puis c'était le but des pères fondateurs. Ces gens-là étaient des gens brillants. Ils disaient, écoute, si tu veux mettre autant de pays comme ça, différents comme ça, ensemble, faut que chacun soit protégé. Puis, il faut que tu protèges. Et ça, c'est intéressant parce que la façon dont c'est phrasé, d'ailleurs, c'est pas le pouvoir des États, c'est le pouvoir des individus qui constituent un État. C'est vraiment basé sur les droits de la personne, la liberté de la personne. Parce que c'était Jefferson qui disait, si tu commences à sacrifier de la liberté pour la sécurité, tu n'auras pas ni un ni l'autre.
Ni un ni l'autre, c'est ça. Mais d'après toi, est-ce que tu penses que... le système du collège électoral américain est un système plus démocratique que le système canadien ou québécois?
Moi, je pense qu'il est méconnu. Et sur le site, malheureusement, je vais essayer d'en faire une version française, mais sur le site anglais du Parti 51, j'ai une vidéo dans notre section YouTube là, qui explique le collège électoral et pourquoi c'est un bon système et pourquoi les pères fondateurs l'ont fait comme ça. Et c'est un petit bijou. Parce que le collège électoral, c'était justement pour éviter, parce que ça, c'était l'autre chose. On disait, écoute, si tu mets 50 pays ensemble, là, mais qu'il y en a un qui a 30 millions d'habitants, puis que l'autre en a 3, là, celui qui a 30 millions, il va écraser le petit pays, puis le petit pays, il va se faire manger. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, le Québec qui a peur de se faire manger, justement? Ben, le système, il est justement fait pour empêcher ça. D'une part par le Collège électoral, deux part par le Sénat américain. Parce qu'il y a deux chambres aux États-Unis. Pour passer une loi, il faut que ça passe par deux chambres. Puis là, je veux pas être trop technique, je mets ça le plus simple possible que tout le monde comprenne. T'as le Congrès, où là, t'as un nombre de représentants en fonction de ta population, puis t'as le Sénat. Puis le Sénat, qui est très fort aux États-Unis, c'est deux sénateurs par État. Que t'aies 3000 personnes dans ton État ou que t'en aies 500 millions, tu vas toujours avoir deux sénateurs. Et ça, ça permet de garder l'équilibre entre tous ces pays-là. Puis justement, à un moment donné, le monde disait, collège électoral, c'est de la crotte, parce que partout aux États-Unis, en pourcentage, c'est plus. Mais c'est justement ce que les gens répondaient. C'est parce que les États-Unis, c'est pas un pays. C'est pas une élection du président, c'est 50 élections dans chaque pays va voter pour des gens qui vont nommer le président. Et c'est pour ça que, puis le collège électoral disait aussi, le fait d'avoir 50 élections au lieu d'en avoir une grosse protège mieux contre la fraude électorale. Ça a été très d'actualité avec l'élection de Trump lorsqu'on a allégué le fait qu'il y ait des hackers russes qui ont essayé de pirater les élections. Ben quand tu as un collège électoral comme ça, au lieu d'avoir une élection à pirater, il faut que tu en pirates 50. Fait que même quand c'était de la fraude papier, parce que Dieu sait que ça date pas de l'informatique, là, les morts qui allaient voter, parlez-en des vieux au Québec, ils vont vous dire qu'ils en ont vu des morts qui sont allés voter. Là. Et de se protéger contre ces fraudes électorales-là, c'est une des fonctions du collège électoral.
Et donc demain matin, juste économiquement.
Oui.
Parce que je sais que des séparatistes peu réduits vont être très en désaccord avec ça. Pour eux autres, devenir un 51e État américain, c'est comme de partir d'une tyrannie pour aller dans une autre tyrannie.
C'est ça, changer. Mais c'est bien.
Économiquement parlant, demain matin, est-ce qu'on récupère, est-ce qu'on a nos droits de passage? Est-ce qu'on. En même temps, les échanges avec les États-Unis au niveau de notre bois d'œufs, par exemple, est-ce que ça va équilibrer nos échanges? Est-ce que ça va être en notre faveur, en notre défaveur? Parce que les Américains, eux autres, c'est sûr qu'ils veulent avoir le fleuve Saint-Laurent.
Ça, c'est évident. La valeur géopolitique, la valeur stratégique même du fleuve Saint-Laurent est grandement sous-estimée.
Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Bon, mais les États-Unis veulent rien savoir de nous autres. » Non. On a plein de richesses. On a un sous-sol incroyable. On a le fleuve Saint-Laurent.
Il y en a plusieurs. C'est-tu un des choses qui, est qui serait probablement le plus intéressant pour les États-Unis que les gens sous-estiment beaucoup?
Ben, peut-être donc, l'hydroélectricité, l'eau potable, le bois, le sirop d'érable.
L'accès à l'Arctique.
Parce que
l'Arctique va être le champ de bataille du 21e siècle. Les Russes commencent déjà à tester la souveraineté de la Chine puis du Canada pour aller faire des forages pétroliers en Arctique et pour avoir assumé la supériorité militaire. Parce que comme c'est là, c'est un territoire qui appartient à personne, puis tout le monde est un peu, genre, c'est là que ça se passe.
Oui, parce que le territoire appartient à celui qui l'occupe.
Tout à fait.
Si tu n'occupes pas un territoire, tu peux pas dire que ça relève de ma souveraineté. Alors, c'est sûr que le Canada, on n'est pas très, très équipé pour se battre contre les Russes.
Écoute, Maître Laferrière, qui est un expert en la matière, disait justement, puis il disait avec beaucoup de respect pour nos Rangers autochtones qui vont faire leur petit run de motoneige de temps en temps. Ces gars-là, on a un rendement extraordinaire, c'est vrai. Mais de mémoire, je pense qu'ils sont 12 ou 14 pour couvrir le Grand Nord. Là. Fait que c'est sûr et certain que demain matin, débarque une puissance militaire quelconque.
C'est pas les ça. Russes débarquent là, puis il y a du pétrole, c'est tout bad, mais
c'est pas ça qui va les arrêter. Là. Demain matin, les Russes décident d'arriver dans le Grand Nord québécois, puis ils mettent une base là. Tu sais, OK, mis à part tout le contexte diplomatique et politique, mais tu sais, faut oublier jamais une chose, là, parce que les gens, tu sais, on a beaucoup de pacifistes au Québec pour un paquet de raisons, puis on a des gens qui pensent sérieusement. Puis ça s'est déjà vu chez certains souverainistes qu'on pourrait avoir un pays sans armes.
Oh, non.
Et on a toujours profité de la protection de l'armée américaine parce qu'on se trouve à être juste à côté, on est leur zone tampon, mais on n'a jamais payé pour dans les fils.
Puis eux autres, c'est pas dans leur intérêt qu'un ennemi envahisse le Canada et qu'il soit juste à côté.
Exact.
Puis c'est pour ça que, par exemple, les islamistes qui voulaient aller au Liban pour se rapprocher d'Israël, ben eux autres, ils veulent pas que leur ennemi soit leur voisin. Mm-hmm. Écoute, je sais pas si tu veux, je vais te poser des questions qui sont sur ton site. J'ai regardé les facs et c'est vrai que ce sont les questions que les gens me posent quand j'ai dit que j'allais te recevoir.
On a vraiment travaillé fort là-dessus, puis j'ai même en bas de la fac, c'est marqué « Vous avez d'autres questions, contactez-nous ». S'il y en a à laquelle je n'ai pas pensé, ce qui me surprendrait beaucoup, mais ça peut, on ne peut pas penser à tout. Envoyez-les-nous, puis on va les rajouter.
Si jamais il y a des gens dans le chat, d'ailleurs, qui vous avez des questions pour Maître Mercier, juste le dire dans le chat, s'ils ne sont pas déjà dans le fac. Mais je vais commencer dans le fac.
Oui.
On a déjà couvert pourquoi les États-Unis plutôt que le Canada.
La forme partie51.com pour les gens qui voudraient aller la consulter.
Ou qui voudraient faire un don à votre parti.
Ou devenir membre, parce que c'est super important qu'on ait des membres. Ça, je pourrais t'expliquer pourquoi. Parce qu'au Québec, le système est fait pour défavoriser les nouveaux partis, puis pour favoriser les partis existants. Et puis, pour avoir un meilleur financement, il faut que tu aies au moins 1000 membres. Et là, on s'en approche. Et chez nous, ça ne coûte rien de devenir membre. Ça
écoute, j'ai même pas pensé. J'ai fait un don, mais j'ai pas pensé à mettre membre.
Exactement. Et beaucoup de gens font cette erreur-là. Puis c'est pour ça que j'aime mieux en parler. Les gens qui veulent se tenir informés. Puis même les gens hors Québec, parce que j'ai beaucoup de gens des États-Unis qui m'ont déjà contacté pour dire qu'ils trouvaient ça génial. Puis qu'ils seraient bien d'accord. Et puis, il y a un statut abonné. Donc, quand
je pense qu'il y a plus, dans les sondages, il y a plus de personnes, quand tu poses la question québécois, il y a plus de personnes qui voudraient devenir un 51e État américain que de personnes qui veulent se séparer du Canada.
Oui.
En pourcentage.
Absolument.
Et ton parti, je me suis dit, tu sais quoi, moi je cherche une alternative au Parti libéral, au PQ, puis l'offre, présentement, il n'y a absolument rien là-dedans qui vaut la peine que je m'investisse et que je milite. Mais ton parti, je me suis dit, ça vaut la peine.
Puis tu sais une chose, hein, les vieux partis ou n'importe quel parti ont tous le même problème. Déloger le Parti libéral devient de plus en plus impossible parce qu'il monopolise le vote anglophone et allophone. Mais même le Parti 51 de 90 avait énormément d'attrait auprès de ces gens-là. Et si tu es capable d'aller chercher ces gens-là et des souverainistes puis des mettre dans le même parti, imagine le potentiel que cette idée-là peut avoir. Ça me fait souvent rire parce que les mondes disent « Ah, c'est une idée, c'est bien trop fou, puis c'est pas réaliste. » Une idée théorique, ben au contraire, c'est plus réaliste que
l'indépendance. Puerto Rico l'est devenu.
Exact. Et puis ça, on pourra en parler, le pourquoi, quelles sont les différences, le pourquoi du comment. Écoute, honnêtement, on pourrait faire 8 émissions d'une heure là-dessus.
Imagine pas attendre 2 heures à douane.
C'est pas le sujet, là.
Comment ça serait extraordinaire. Alors, je continue dans les questions.
Oui.
Comment protéger la langue française dans un si grand pays anglophone?
Bon, ça, c'est le grand classique. Puis je vais commencer par la fin de ma réponse dans la foire aux questions. De dire, écoute, une culture et une langue... On mettra toutes les lois du monde pour les protéger si on ne transmet pas aux immigrants et à nos enfants la fierté de notre culture. Premièrement, si on ne leur apprend pas notre culture. Qui vous connaissez demandez-vous tous la question, là, ceux qui écoutent, ceux en général autour de vous, là, qui ont fait écouter un rigodon dans le temps des fêtes à leurs enfants, puis qui savent c'est quoi. Pour moi, la bottine souriante ou la sagouine ou même du Gilles Vigneault. Il n'y en a plus. On ne le fait plus. Puis ça, d'ailleurs, je pense, c'est, vous savez, la fête de la Saint-Jean à Québec, à un moment donné, là, c'est comme on a voulu la mettre commerciale, puis là, fou, puis tout ça, puis le fait qu'ils ont interdit de boire, là, t'as tué tout ce qu'était la Saint-Jean dans les fêtes.
Ben oui, surtout qu'il n'y a plus personne qui se pitche dans le feu de joie.
Ouais, ça, on peut pas faire, évidemment. Mais tu sais, ça reste que, écoute, la culture, c'est quelque chose que c'est nous, les citoyens, qui sommes responsables de ça. Puis qu'est-ce qui fait que le Québec a toujours réussi à survivre dans cette marée d'anglophones? Parce que moi, c'est drôle, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire hey, « si je suis encore français aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un poste de douane à la colle. » Le douanier a sauvé, là, il m'a sauvé le fait que je pouvais parler en français. Si c'était pas de lui, là, on serait envahi. Les Américains, là, quand ils arrivent à douane pour venir ici, là, s'ils parlent anglais, on les vire de bord à douane. Non. Puis nous autres, quand on descend aux États-Unis, là, on la passe la frontière, on est là, on est déjà baignés, noyés dans cette culture-là. Avec les iPods aujourd'hui, les iPads, tout ça, on est en ligne à l'année. Et la langue commune dans le monde, tu parles avec un Chinois qui parle mandarin, puis toi, tu parles français, vous parlez en anglais.
Écoute, il y a Gilles dans le chat qui pose une question.
Oui.
il dit le problème avec les États-Unis serait le fait que nous sommes beaucoup plus socialisants ou socialistes et eux capitalistes à 200%. Mais quelque part, le Vermont, c'est...
T'as le Vermont, Bernie Sanders, t'as la Californie,
ouais.
Que récemment, le chanteur de Metallica faisait une synca parce qu'il disait que quand il voulait aller s'acheter des munitions pour un gun, il fallait qu'il remplisse le même questionnaire à chaque fois, puis il était écœuré que ça devienne si libéral d'un État qui était rendu à légiférer, tenez-vous bien, des flatulences de bovins.
Mm-hmm.
On n'a même pas ça au Québec. C'est en Californie qu'on parle. Fait que il n'y a absolument rien qui empêche un État d'être aussi à gauche qu'il veut dans les États-Unis.
Et le fait d'être capitaliste, c'est ça qui fait que le PIB, il baisse jamais.
Ben oui. Et l'autre réalité, là, parce qu'il y en a de plus en plus des mouvements de gauche dans certains États américains, comme t'en as d'autres qui sont très à droite, la seule chose, et ça c'est moi ce que j'ai déploré, et ce pourquoi je me suis battu au Québec, qui passerait pas aux États-Unis, puis qu'on a au Québec, c'est le mur à mur. Là. C'est l'espèce de « c'est comme ça que ça marche », tu sais, comme on le voit notamment justement dans le domaine agricole. Tout le monde fait comme ça.
C'est du fascisme.
Tout le monde a ça. C'est de la norme imposée.
Ouais.
Tandis qu'aux États-Unis, ton système de gauche, faut que tout le monde le veuille.
Ouais.
Parce que les gens sont libres. Parce que c'est démocratique. Si on est à gauche, parce qu'on a voté pour. Si demain matin, on est tanné d'être à gauche et on vote contre, on ne sera pas obligé d'aller casser une loi devant le tribunal puis d'aller se battre avec une armée d'avocats. On va voter puis ça va être fini, là.
Qu'est-ce qui arrive? Oui, excuse-moi, je te souviens.
Et savez-vous quoi? Ça marche. Nombre de fois que je me suis fait servir par l'UPA, hey, ça serait l'hécatombe si on enlèverait la mise en marché obligatoire. Ben, sais-tu quoi? Les producteurs américains de patates, ils le font sur base volontaire et ça marche très bien. Ils en ont de la mise en marché. Scandale!
Ouais.
Donc, quand tu mets, et c'est ça, quand tu acceptes la liberté de la diversité, tout est possible. Mais, et ça encore là, faites attention. Les médias nous disent que le Québec est à gauche. Le gouvernement, effectivement, gouverne très à gauche. Mais il y a un fonds bleu régional qui est encore là. Et vous regardez les élections, comment ça a voté au Québec. Puis moi, quand que je parle, parce qu'il y a plein de monde qui me disait, écoute, c'est le Congrès américain qui décide si tu rentres comme État ou pas. Puis comme c'est là, il est majoritairement républicain. Je leur donne deux réponses à ça. Il change à toutes les deux ans. Mm-hmm. D'une part. Et d'autre part, moi, ce que je leur dirais à ces gens-là, c'est le Québec, c'est un swing state. Ce qu'on appelle, là, pour ceux qui connaissent pas ça, un swing state, c'est un État, un de ces États-là qui fait pencher la balance quand il y a des élections d'un bord ou de l'autre, parce qu'il vote des fois d'un bord, des fois de l'autre. Et même si la gauche a pris beaucoup de place au Québec, de dire que le Québec est un État de gauche, je serais pas prêt à admettre ça. Mais même si c'était le cas, il n'y a absolument rien demain matin qui t'empêcherait de le faire comme État américain. Toutes les législations qu'on a là seraient admissibles dans un système américain, comme je vous dis, sauf celles qui sont obligatoires mur à mur. Parce que ça serait pas correct. Parce qu'ils diraient, tu peux pas faire ça. Là.
Ben en fait, tu vois, la gauche, la droite, ici au Québec, c'est sûr qu'on aime ça, la gauche, jusqu'à temps qu'à un moment donné... T'as plus jamais une scène dans tes poches.
Hey, tu sais ce que Thatcher, c'est Thatcher qui disait socialiste, ça marche que tant qu'on manque de l'argent des autres.
Exactement.
Puis au Québec, il y a plein d'économistes qui vont dire on s'approche dangereusement de ça. Là, où, hey, la péréquation qu'on reçoit, qui n'a pas si longtemps était à 7 milliards, est déjà rendue à 11, puis on continue de s'endetter.
Ouais.
Les choix difficiles au Québec, il va en avoir à faire. Qu'on soit dans le Canada, qu'on soit indépendant, qu'on soit un État américain. Ça, là, les politiciens, ils aiment bien ça, nous endormir en nous disant « Hey, si on fait ci, si on fait ça, on ne pourra pas faire ça. » C'est pas vrai. C'est deux affaires qui n'ont pas rapport.
Parce que les citoyens s'appauvrissent depuis 20 ans au moins au Québec, peut-être 30. Il y a moins en moins de revenus disponibles.
Exact.
Les gens ne vont plus en vacances. Ils ne mettent plus d'argent de côté. Ils ne peuvent plus sortir de chez eux.
On a tous le même problème. Sais-tu quoi? Je pourrais te faire une émission de 8 heures sur à quel point ça serait bon sur telle et telle chose de devenir un État américain, là, mais bien souvent, là, à un moment donné, j'ai appris l'humilité de la simplicité par un de mes gars qui est allé chercher des signatures de membres, puis il m'a dit, sais-tu quoi, moi, je suis allé m'asseoir au restaurant, sur le coin d'une table, puis j'ai dit au monde, t'aimerais pas ça demain matin de payer en US? Il dit, j'en ai signé 100 dans veillée. Je peux poser de questions plus que ça. Là. Ils ont tous dit juste à ça. C'est simpliste. Mais ça, c'est l'autre affaire qu'on oublie en politique. Puis mon parti, tu sais, j'ai l'aspect 51e État, mais j'ai l'aspect de la constitution du parti puis de la constitution du Québec aussi, dont on pourrait parler, que je veux faire de la politique. La raison pourquoi moi, Hans Mercier, j'ai décidé de faire de la politique, c'est parce que j'étais écœuré, justement, quand j'ai checké la politique au Québec, de voir ces politiciens de carrière-là qui vendaient l'avenir de mes enfants pour sauver leur job, pour se faire réélire. Ben, sais-tu quoi? Il y a un paquet d'affaires, nous, qu'on fait... Moi, je m'en fous d'être élu ou pas. Là. Puis si je me fais élire, ça va être sur les bonnes questions, ça va être sur les bons principes. J'aime mieux perdre en proposant quelque chose de clair, puis que le monde sache dans quoi qu'il s'en bat, que de gagner sur des fausses raisons juste pour aller gouverner puis aller m'acheter une rente. J'en ai pas besoin de rente. Okay? Mes finances sont très bien, puis il y a bien du monde qui me dit « t'es complètement débile mental de te lancer en politique ». J'avais toutes les raisons du monde de ne pas le faire. Mais je pense à mes enfants. Puis la seule raison, la seule façon dont on va assurer, dont je vais assurer l'avenir de mes enfants, c'est si j'assure l'avenir de tous les enfants du Québec. Parce que si j'avais voulu juste assurer l'avenir des miens, je me serais présenté libéral, j'aurais gagné facilement dans Beau-Sud, et puis, tu sais, garde, je leur en aurais payé un avenir. Je me serais arrangé pour qu'ils soient dans la bonne gang. Mais c'est parce que ça, là, c'est bon à court terme, ce genre de choses-là, mais c'est pas bon à long terme. Parce que ça tue le système. Puis à un moment donné, l'économie ne te suit plus. Puis justement, tu n'en as plus d'argent pour graisser tes amis. Parce que là, le problème, c'est ça au Québec, là, c'est qu'il y a trop d'amis. Puis il n'y a plus d'argent pour les payer. Là.
Ben écoute, là, c'est rendu... À quelque part, le citoyen, quand tu dépasses une certaine limite, quand tu le fourres passer cette limite-là, c'est là que l'argent au noir commence. C'est là que le troc commence. C'est là que l'économie souterraine commence.
Mais on est rendu bien plus loin que le noir. Même les gars que je connais qui font du noir, là, je dis, nous autres, regarde, moi j'ai un bureau d'avocat. Là. On fait les divorces des gens. Là. On les voit les finances de monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est rendu que ça a trois cartes de crédit puis qu'ils se payent toutes une après l'autre à chaque mois. Là. Ouais. C'est plus une question. Puis même les gars qui font du noir, c'est pour payer les factures. Tu sais, là, c'est rendu que...
Ou payer les impôts de Revenu Québec.
D'une façon ou d'une autre, les gens n'arrivent plus.
Exact.
Ça aussi, c'est pas normal. Là.
On n'est pas capable, les Québécois, de se mettre de l'argent de côté. Puis à chaque fois que quelqu'un parle de ça à radio, ça me déprime.
Ben écoute,
parce qu'on ne fait pas assez d'argent.
C'est bien beau d'avoir un filet social, mais si à un moment donné, tout le monde en a besoin, puis qu'il n'y a plus personne pour le payer, il devient théorique ton filet social.
Ouais.
La meilleure façon d'assurer que personne n'est laissé pour compte, même si on est à gauche, c'est avant tout d'être prospère. Puis ça, ça peut se faire de la bonne façon. Quitte à être justement de la fameuse gauche efficace, là, sur laquelle je pourrais commenter longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que tu en as des mesures. Premièrement, la droite et la gauche est tellement utilisée à tort et à travers. Là. On va dire qu'une mesure est de droite alors qu'elle est de gauche. On va dire qu'elle est de gauche alors qu'elle est de droite. Puis bien souvent, le but, c'est de jouer sur tes émotions puis de te faire culpabiliser comme citoyen puis de te faire sentir cheap, de faire autrement que voter comme ils veulent. Mm-hmm. Nous, on prend le temps d'expliquer. Ah, c'est peut-être moins sexy, c'est peut-être moins winner, mais quand je vais faire des vidéos, quand je vais faire une foire aux questions, les gens, ils vont l'avoir, la réponse. Puis la réponse, ça va être terre à terre puis elle sera peut-être pas toujours plaisante, mais elle va être vraie. Puis après ça, les gens décideront en connaissance de cause. Puis s'ils décident de continuer à se faire endormir, ben, ils continueront à se faire endormir. Moi, personne ne va pouvoir me blâmer.
Là, tu parlais de filet social. Évidemment, les gens vont te parler
évidemment,
de l'assurance maladie. Parce que c'est un privilège qu'on a d'attendre 36 heures alors que tu as le crâne fendu puis que tu vides de ton sang.
Ça, c'est une autre chose. Là. Premièrement, notre super système québécois qui fait l'envie de tous, là, pour penser ça, il ne faut jamais avoir été à l'urgence.
ou essayer d'avoir un rendez-vous quelconque.
La gratuité, là, que ce soit l'école ou le show, regardez comme il faut votre rapport d'impôt à la fin de l'année pour voir comment le système gratuit vous coûte versus comment il vous coûte au privé. Il y en a peut-être qui vont voir le débat d'un autre œil. Mais moi, ce débat-là, je veux pas le faire. Je veux pas être pour un ou pour l'autre. Et ça, c'est l'autre chose. C'est le piège dans lequel on tombe. Tu sais, le Parti 51, là, il est pas à gauche, il est pas à droite, il est pas pro-Trump, il est pas pro-démocrate, il est pas libéral.
Il est pour un principe.
Il est pour un principe. Parce que la seule façon dont tu vas passer quelque chose comme ça, c'est justement de dire on accepte des gens de partout. Puis d'ailleurs, tu sais qu'une particularité qu'on a, c'est que chez nous, c'est prévu dans les règlements du parti que tu as le droit d'être membre d'un autre parti politique, d'avoir une affiliation secondaire. Si demain matin, tu dis, écoute, moi je suis un libéral, je trouve ça super bon ton idée, mais le jour qu'on va devenir un État américain, je vais être un libéral encore demain matin, puis je vais me présenter le parti. Fine! Ça t'empêche pas, t'es pas obligé de déchirer ta carte du PQ, ta carte du Parti libéral, ta carte de tel ou tel parti, enfin, parti du tout, tant et aussi longtemps que c'est pas incompatible avec l'objectif du parti.
D'après toi, René Lévesque, il aurait dit quoi de ça? Parce que lui, il était pour la souveraineté association avec le Canada, mais d'après toi, puis de la manière que tu m'expliques ça, c'était, il aurait dû bien plus vouloir devenir un État... Absolument. Américain que s'associer avec le Canada. Il aurait vu ça comment, d'après toi, René Lévesque?
Moi, je pense qu'il aurait été... Personnellement, je pense qu'il aurait certainement pas été contre l'idée, parce que c'est exactement ce qu'il proposait, mais de façon... C'est la version 2.0, dans le fond, la version améliorée, si tu veux, parce que tu gardes, justement, cette sécurité économique-là d'une fédération, mais t'en prends une qui est bien meilleure. Mm-hmm. Qui est plus forte économiquement, qui est plus démocratique, qui est plus... Écoute, on pourrait le faire longtemps, là. Et puis ça, on pourra garder une partie de l'émission à un moment donné, là, sur ceux, là, que cette espèce d'anti-américanisme viscéral qu'on a chez certains, là, qui donne une réaction qui vient des tripes, qui n'est pas réfléchie de...
Ouais, mais ça, c'est ceux qui sont jamais allés aux États-Unis.
Le grand Satan... Oh, attends un peu.
C'est pas vrai. Quand tu vas aux États-Unis, tu sens l'aspect communautaire qui est tellement fort.
Ça, c'est comme le gars qui va à sa manif du G20 puis qui se prend en photo avec son iPhone, là, que j'ai partagé récemment. C'est un anticapitaliste, mais il a le produit Apple de l'heure, puis il a payé.
Ouais, c'est ça.
T'sais, c'est l'ironie de la chose. Puis tu vas voir que ces anti-américains-là qui les détestent, ça leur pue au nez, là, les mêmes gars qui t'ont dit qu'ils auront pas en vacances l'été aux États-Unis parce que c'est Donald Trump et c'est un scandale. C'est drôle, là, mais... Ils vont tout encore à Walt Disney, ils vont tout encore sur les plages du Maine.
Parce que même s'ils disent que c'est un pays super capitaliste, qui n'est pas de mauvaise chose, je te le dis, là, moi, je suis allé à bien des places aux États-Unis, et ce qui m'a frappé, puis ce qui est commun dans tous les États, c'est l'esprit communautaire.
Oui!
Ils ont un esprit communautaire comme j'ai jamais vu ici.
Ces préjugés-là sont pas fondés. Premièrement, là, si tu es vraiment sérieux par rapport à ça, là, imagine-toi, avec un peu de perspective, fais un peu d'effort, là. Qu'est-ce que serait la situation actuelle du monde si les États-Unis n'étaient pas là? Tu vas voir que tout d'un coup, tu risques de réaliser tout ce qu'ils ont apporté. Parce qu'on les critique beaucoup, mais on oublie ce qu'ils ont amené de bon. Et ça, on pourrait en parler encore là très, très, très longtemps. Écoute, je te prends l'exemple, justement, là, tous les gars, là, qui sont justement anti-américains, vont triper sur Steve Jobs. C'est pas pour rien que je l'ai mis dans notre vidéo publicitaire, parce que c'est pour rappeler aux gens, sais-tu quoi, Steve Jobs? C'est un Américain. Apple, là, ça vient des États-Unis. Il y a un paquet d'idées là, super progressistes socialement qui viennent des États-Unis. Ben oui, ils ont déjà eu l'esclavage, ils ont eu la guerre de sécession, puis il y a des problèmes de racisme dans certains États du Sud. Yes. Mais en même temps, tu as des gens, des leaders de droits sociaux qui sont des Américains. Le nombre de écoute, tu fais juste le check le nombre de prix Nobel qui viennent des États-Unis.
Mais ils peuvent dire merci à leur population juive pour ça.
Ou allemande. t'as eu les scientifiques allemands aussi qui se sont ramassés aux États-Unis. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que les États-Unis, c'est un gros melting pot de culture. Ils disent non à personne. On te juge pas. Et d'ailleurs, la grosse différence avec la Constitution américaine, c'est ça, c'est que la Constitution américaine, c'est tout le monde est égal devant la loi.
Et les gens bougent beaucoup là-bas parce que si à un moment donné, tu tripes pas sur ton État, mettons, là, toi, là, t'es un Québécois, pis t'aimes pas ça, le Québec. Qu'est-ce que tu... Où c'est que tu vas? À l'Ontario? Des Maritimes? Où c'est que tu vas? Mais alors que...
J'en viens, André, à la protection du français, là. Moi, je disais souvent à la blague du monde, je dis, comment ça que t'as plus de facilité à te faire servir en français en Floride que quand tu vas au centre-ville de Montréal?
Exact.
J'ai déjà posé cette question-là. T'as peur de la protection du français. Il y a des écoles francophones à New York. Il y a 20 000 familles francophones à New York. La Louisiane, non, n'est pas complètement louisianisée. Premièrement, c'est encore le seul État qui est de droit civil et non pas de common law. Ça, ils ne l'ont pas perdu. Puis les francophones de là-bas, il faut comprendre une chose, là, c'était pas un État français. C'était une colonie française qui est devenue américaine. C'était pas 100% français. Puis t'as pas, tu sais, la protection là, législative ultime que tu peux avoir n'importe où dans le monde, c'est un article de la Constitution. Puis les États-Unis, chaque État étant un État souverain, ils ont des constitutions valides et reconnues qui ont le pouvoir de document constitutionnel. L'article 2 de la Constitution qu'on propose pour le Québec fait du français la langue officielle. Protection légale, tu peux pas en avoir de meilleur que ça. Tu l'auras jamais dans le Canada, oublie ça.
Mais si tu fais ça, tu penses-tu vraiment que tu vas avoir, parce que là, le Québec veut pas, il y a de plus en plus d'anglophones et d'allophones. Tu penses-tu qu'avec ça...
Pas en tout, parce que le fait d'obliger d'avoir une langue... Parce que oublie pas qu'un domaine constitutionnel, ça lie le gouvernement. Ça veut dire que tes actes d'état civil, tes lois, doivent être en français.
Mais toi, ça va pas nuire à ton parti, ça, cet article-là?
Non, parce que le fait que ce soit obligé d'être en français empêche pas de les traduire en anglais ou de donner du service en anglais. On n'est pas obligé. Et c'est ça que je te disais tout à l'heure. Cette espèce de paranoïa-là qu'on a, que l'important, c'est d'avoir le service en français comme du monde. C'est ça la garantie. Le fait de donner du service en anglais à un anglophone, là, c'est pas ça qui va te faire perdre ton français. Puis c'est pas ça qui va rendre, qui va faire que tes enfants vont se mettre à parler anglais. C'est pas comme ça que tu sauves une langue et une culture.
C'est la fierté de ta langue. Si t'es pas fier de ta langue, tu vas la perdre.
C'est la fierté de ta langue. Il n'y a rien d'autre qui va faire ça.
Pis la langue est tout le temps en évolution.
Puis si on ne fait pas d'enfants, ben faut accueillir les immigrants puis les intégrer comme il faut. Faut leur montrer. Tu sais, là, le gars qui te répond au dépanneur en anglais, là, t'es-tu déjà donné le trouble d'y demander pourquoi il ne te répondait pas en français? Puis s'il connaissait un peu l'histoire du Québec, puis s'il connaissait la culture du Québec, s'il avait déjà goûté une poutine de sa vie. Tu sais, on se donne pas ce trouble-là. Puis ça, là, il n'y a pas une loi qui peut contrebalancer ça. Tu sais, j'ai jamais entendu un gars qui avait un anglais qui s'était mis au français parce que la loi 101 l'avait forcé.
Non, c'est sûr. C'est comme quand même bien que tu dirais que l'hétérosexualité est interdite.
Exact.
Puis qu'il y a juste l'homosexualité maintenant qui est valide. Ça va pas changer les hétéros en homo ou vice-versa.
Quand les lois sont valides, c'est avant tout parce que les gens disent pour que notre civilisation survive, il faut qu'on les respecte. Mais si tu fais des lois que tu pousses de travers... Tu sais, je te dis pas que ça fait rien, mais c'est pas l'essentiel. Les anglophones qui se sont mis à parler français, c'est parce qu'ils se tenaient avec des francophones qui leur ont donné le goût de parler français. Puis ces enfants-là d'anglophones, c'est la même chose. Tu sais, je veux dire, c'est pas... L'important, c'est de s'assurer que ça ne se perdra pas.
Puis écoute, je dois mettre un terme à l'émission.
Excuse-moi, je veux juste finaliser là-dessus.
Oui, vas-y, parce qu'après ça, on va parler... j'aimerais ça que tu plugues ton parti, comment devenir membre, et aussi de quoi tu vas... Parce qu'au prochain colloque du mouvement républicain... Pardon? Oh oui, je te dis, ça passe super vite! Et j'aimerais ça te revoir.
Oui.
Parce que officiellement, maintenant, t'es le seul parti que je supporte. C'est sûr que je veux te revoir parce que, écoute, il y a genre 20 questions. On n'a pas eu le temps de passer à travers de ça. C'est super intéressant.
Garde-les, puis envoie-moi-les. On va tous faire répondre. Je ne laisserai pas des questions suspectes.
Alors, les gens qui veulent devenir membres, faire des dons.
Parti51.com. Tout se fait en ligne. On veut vraiment, pour une question. Ça coûte beaucoup moins cher. Pas parce qu'on aimerait pas ça aller faire un gros party puis tout aller vous voir. Toutes les assemblées d'investisseurs, on va tout faire ça en ligne par le forum. C'est vraiment ça qu'on anticipe. Devenir membre, ça coûte zéro. Et tu pourras lire sur devenir membre le pourquoi. C'est que c'est pas vrai que quelqu'un qui a pas les moyens d'être membre a pas le droit dans une démocratie de faire valoir ce qu'il y a à dire. La démocratie, c'est pas rien que pour les riches, c'est pour tout le monde. Les riches, ils pourront faire des dons. Puis ça, c'est l'autre petit carré. Il y a trois petits carrés. Il y en a un, c'est faire un don, devenir membre qui coûte rien, puis connexion pour aller sur le forum, puis jaser avec les autres membres de ta circonscription. Et on a depuis maintenant aussi la boutique. parce qu'on avait plein de gens qui étaient en dehors du Québec, puis la loi électorale, dont on n'a pas eu le temps de parler finalement, étant comme elle est, quelqu'un qui n'est pas un électeur au Québec ne peut pas nous donner, ne peut pas nous encourager financièrement. La seule façon qu'on a de le faire, c'est qu'on a mis une boutique où on vend des calottes, des épinglettes, des t-shirts avec le logo du parti. Et ça, ben, même si quelqu'un est aux États-Unis, au Canada ou en Europe, il peut en acheter, là. Et ça, c'est l'autre façon de nous aider avec le financement. C'est vraiment les façons dont les gens peuvent nous aider à avancer. Et je veux vraiment qu'on en refasse une émission parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas faites au niveau de la transparence, au niveau que nous, il n'y a pas aucun candidat qui va être nommé.
Mais là, je veux dire une chose. Là, présentement, il y a Stéphane Blais qui veut te débattre.
Oui.
Je vais me déplacer à Québec. Je vais me déplacer à Québec avec mon équipe. On va faire ce live dans un bar, si tu es intéressé. Tu vas être également au prochain colloque du mouvement républicain. Tu as eu un empêchement pour le dernier. Tu vas être là au mois de septembre. Alors, les gens qui veulent voir Maître Hans Mercier en action, mesdames et messieurs, vous pourrez le faire. Mais je dois malheureusement mettre un terme à cette émission. Merci beaucoup. Je te reviens en passant, Hans, après. Merci beaucoup à ceux qui ont été là aujourd'hui. Ça a été une émission qui a créé beaucoup d'intérêt, autant sur mon Facebook. Vous étiez nombreux ce soir à nous écouter. Merci d'avoir été là. Le Parti 51 ramasse des dons, moi aussi, parce que moi aussi, je me bats pour le peuple québécois et je serai en tournée. La première date qui est officielle maintenant, c'est le samedi 29 juillet. Je serai à Chicoutimi-Nord. Je vais être à Québec le 30. Le 2, je serai à Matane-Ourimouski. Et le 4, dans les Laurentides, il y a peut-être Trois-Rivières qui va se joindre à ça. Donc, suivez-moi sur mon Facebook pour plus de détails. Alors, merci d'avoir été là et on se revoit dans un prochain vidéo.